France Inter, franceinter.com.
J'ai vu au Caire cet arbre qui produit un fruit dont les Arabes font une espèce de décoction qui est forte en usage. Ils appellent cette boisson kawa. Prosper Alpin, 1592. Ans d'histoire. Lorsqu'à la fin du XVIe siècle, le médecin italien Prosper Alpin découvre le café en Égypte, personne en Europe n'en connaissait encore l'existence. Il n'était cultivé qu'au Yémen et consommé dans le monde arabe, bien avant de traverser la Méditerranée grâce aux commerçants vénitiens et aux soldats de l'Empire ottoman qui ont transmis le goût du café partout où les conduisaient leurs conquêtes. Depuis cette époque, le café est devenu une des boissons les plus consommées du monde, si loin des pays où on l'a découvert et où il est produit, qu'on ignore souvent son histoire, d'où il vient et les routes qu'il a empruntées pour arriver un jour dans nos tasses.
Alors ça, c'est un café qui est agréable. Il a une petite acidité. Mais il n'a pas beaucoup de corps. Si nous allons sur celui-là, il est plus musé, mais aussi beaucoup plus corsé. Vous voyez qu'il caresse la tasse, n'est-ce pas ? Et la structure du liquide est très différente. Il a un puissant arôme, et il a un goût très fort. Il est amer, doux, acide. Et si on va déguster le troisième, n'est-ce pas ? Vous voyez qu'il est de nouveau liquide, mais il a un goût qui est surtout de bois.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
Philippe Goivers, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Aubanel un beau livre, Les routes du café. Alors le café, un produit que l'on consomme aujourd'hui dans le monde entier, sans qu'on connaisse très bien son histoire, qui commençait, dites-vous, en Éthiopie, hein, où il poussait à l'état sauvage, dans la région de Kaffa. Est-ce que c'est de là d'ailleurs que vient son nom ?
Eh bien justement, non. Pendant longtemps, on a cru que les arbres de Kaffa étaient les caféiers, que les caféiers étaient des arbustes de Kaffa, mais ça n'a rien à voir. En fait, le mot café viendra du terme kawa, comme on l'appellera quand il arrivera dans les pays arabo-musulmans. Mais effectivement, c'est dans la région de Kaffa et dans le rift africain. Donc c'était intéressant aussi de voir que, voilà, une des régions où on trouve l'origine de l'humanité,
hommes, oui.
Voilà, on trouve aussi l'origine du café. Et quand on sait par la suite comment il va accompagner le développement des sociétés et comment c'est devenu une boisson de l'humanité, c'était intéressant d'avoir ce lien aux origines en Éthiopie.
En tout cas, sa consommation est plus récente que Lucie, hein, apparemment. Vous dites d'ailleurs qu'en Éthiopie, où il est né, eh bien, c'était des populations païennes, hein, qui le consommaient. Alors, cette consommation faisait l'objet d'un rituel, le culte des arts. C'était quoi ?
Oui, il était consommé. D'abord, on mangeait le café. Il était cuit, mélangé avec du beurre, format des boulettes, et quand on partait en voyage, on emportait des boulettes de beurre et de café qu'on consommait. C'était une façon de le consommer. Mais il y avait plusieurs façons de le consommer. Par exemple, on faisait aussi des décoctions des feuilles de caféier. On les laissait, et encore maintenant d'ailleurs, on m'a dit que ça se faisait toujours dans des régions reculées. On mettait les feuilles de caféier à sécher, on les faisait griller, et après on les pilait et on en faisait une décoction. Des feuilles, des petites branchettes aussi, nous dit Jacques Mercier dans un de ses ouvrages.
Donc il y avait une espèce de religion du café.
Alors, voilà, le culte des tsars, le café avait une importance fondamental dans le culte des tsars, puisque c'était avec le café qu'on faisait venir les esprits, qu'on faisait venir les tsars. Et il y avait une manière comme ça, très caractéristique de les appeler, c'est de servir le café d'assez haut pour qu'il y ait des éclaboussures autour des tasses, et les esprits moins importants venaient prendre leur café des éclaboussures, alors que les esprits importants avaient leur propre tasse. Et le rituel des tsars avait sa configuration. D'abord, répandre
les tsars,
sur...
c'était quoi?
Ce sont des esprits, c'est le monde de l'invisible. Donc on faisait appel à eux pour demander de bonnes récoltes quand un de ses enfants se mariait, enfin, pour tout ce qui c'est le symbole de fécondité. Le café était lié au symbole de fécondité. Donc on répandait sur le sol de l'herbe fraîche, hein, pour que les tsars se sentent à l'aise. C'était une réminiscence de la brousse. On brûle de l'encens. On commence à faire griller les fèves de café sur une poêle. Et on fait sentir la fumée. Encore maintenant, on a, même dans un restaurant éthiopien ici à Paris, parfois on voit ce rituel qui est... Bon, maintenant c'est du folklore, mais ce n'est pas du folklore en Éthiopie. On fait sentir la fumée aux participants. Et la fumée, c'est vrai que voilà, c'est le lien aussi entre le monde du visible et le monde de l'invisible, parce qu'elle disparaît. Et ensuite, la personne possédée par un tsar va faire son rituel de guérison. En cas de rituel de guérison, faire sortir le tsar qui possède l'individu malade, le faire sortir, le faire parler et guérir l'individu.
Un culte, comme vous le dites, qui se pratique encore aujourd'hui, Philippe Govertz, puisque en Éthiopie, eh bien, ça s'est fait il y a peu de temps, au micro de Daniel Mermet pour l'émission Là-bas si j'y suis, diffusée sur France Inter le 3 septembre 2001.
On part toujours du café vert. Le café est toujours vert. On commence toujours à partir de sel, jamais torréfié. Donc il faut le griller d'abord. Et une fois que ce sera bien torréfié, bien grillé, tu vas voir, il y aura une odeur assez incroyable. On fera sentir à tout le monde. Et après, il faudra le moudre. Tu auras ce bruit de pilon qui sera quelque part dans le jardin, parce qu'on sort de la maison pour le faire. Donc ce sera de la poudre torréfiée. On mettra d'abord de l'eau dans la cafetière. Une fois que l'eau sera chaude, on mettra... C'est plus une infusion. Et après, il y a trois cafés. La cérémonie, c'est trois cafés. Le premier étant le plus fort. Après, on recommence. On remet de l'eau sur le café, donc il est un peu moins fort. Et le troisième, c'est le moins fort. Et quand t'es enfant, tu commences à boire le troisième café d'abord. Après, le deuxième et le troisième. À chaque fois, c'est trois cafés, donc ça prend un certain temps.
Et pourquoi c'est une cérémonie?
Il y a une divinité qu'il faut qu'elle honore quand elle fait le café, etc. etc.
Ah, là, c'est délicieux. Regarde ça, c'est une odeur. Ça, c'est vraiment un bonheur, cette odeur.
Et c'était un extrait de Là-bas si j'y suis en 2001, bien avant que le café ait quitté l'Éthiopie pour s'installer au Yémen au XVe siècle en traversant la mer Rouge. La mer Rouge, vous citez même Philippe Govertz, une très belle légende, celle d'un berger qui aurait découvert le café parce qu'il voyait ses chèvres tout à fait surexcitées en ayant mangé des grains de café.
C'est une des légendes qui court au Yémen. Hein. Parce que le café va arriver au Yémen effectivement au XVe siècle, avec tout de même un petit mystère, c'est que Avicenne au XIIe siècle, dans un traité de pharmacologie, parle d'un produit d'un pharmacopée local qui est le boun. Le boun, est-ce que c'est le boun éthiopien qui était déjà là au XIIe siècle? C'est un des problèmes des historiens, parce que XIIe siècle, et après, on n'en entend plus du tout parler, bien que des voyageurs soient venus et parlent de la région, décrivent les plantes de la région, mais on ne parle plus du tout du boun. Alors, est-ce qu'au XIIe siècle, le café était déjà là? C'est un des mystères. Mais son expansion va vraiment démarrer, effectivement, à la fin du XVe siècle.
Alors, ce berger yéménite, qui était juste à côté d'un monastère chrétien, découvre que ses chèvres, parce qu'elles mangent du café, sautent toute la nuit, elles ne sont pas fatiguées. Il va voir les moines qui le font griller, qui commencent à en boire et qui apprécient ses vertus, évidemment, parce que ça permet aux moines de prier toute la nuit sans être fatigués eux-mêmes.
Et absolument, exactement. Les moines ne le font pas griller tout de suite, parce qu'une des origines légendaires de la torréfaction, c'est que ces moines, justement, prennent les baies rouges, commencent à les croquer, trouvent que c'est amer et immangeable, ils le jettent dans le feu qui était à proximité, et l'odeur du café grillé... Simplement, pour ce qui est de la légende, là, c'est une légende chrétienne, alors que la principale légende qu'on a sur l'origine du café au Yémen sont des légendes musulmanes. Mmh. Ce sont des soufis qui sont censés avoir introduit le café au Yémen à la fin du XVe siècle. On trouvait d'ailleurs en Éthiopie pareil, des légendes musulmanes et des légendes chrétiennes dans le nord du pays.
Alors ce café intéresse aussi justement l'islam, vous le dites, il se répand en Arabie, à la Mecque. D'ailleurs, il y a une controverse, il a même été interdit à plusieurs reprises. Le café, il n'a pas été forcément bien accueilli par l'islam tout de suite. Il a même été interdit... En Égypte, je crois.
En 1511, à la Mecque, alors qu'il commençait à se répandre dans la population autour des soufis, autour de ce monde des mystiques religieux, un soir, l'émir, le gouverneur de la Mecque, Kaïbeg, se promène dans les lieux saints, fait sa prière et traverse la cour de la mosquée. Et il aperçoit dans un coin de la cour un groupe d'individus assis par terre en train de boire quelque chose en se passant la tasse à la ronde. Ils étaient éclairés par une torche et quand le gouverneur s'approche, ils éteignent la torche comme s'ils étaient pris comme ça en train de faire quelque chose d'illicite. Et ce qui a choqué le gouverneur de la Mecque, c'est que la façon de boire était la façon de boire du vin avant que le vin soit interdit. Donc il a tout de suite pensé que dans la cour de la mosquée, boire du vin, c'était une hérésie complète.
Oui. Enfin, heureusement,
il a réuni les docteurs de la loi le lendemain, fait une grande réunion pour essayer d'interdire le café qu'il découvre à ce moment-là. Et là, en 1511, ça va devenir une affaire d'État parce que le gouverneur représentant l'administration temporelle va se trouver confronté au pouvoir spirituel qui, lui, défend le café. Et c'est le sultan du Caire qui va être obligé de trancher. Et lui va trancher en faveur du café.
Alors, heureusement, effectivement, le café va continuer ses pérégrinations. Il va être également... Les Turcs vont se convertir et à l'islam et au café. Et puis, le café, cela dit, vient toujours et viendra toujours pendant deux siècles du Yémen qui en garde le monopole. C'est lui et lui seul qui produit du café et qui l'exporte par son port de Mocha, Philippe Goivert.
Oui, il va garder jusqu'en 1690, il va garder le monopole de la production du café. Et le premier axe de commerce, ça va être Mocha, le Caire, Mocha, la mer rouge, le
Mocha
Caire.
Mocha qui a donné son nom, justement, à l'espèce de café.
Mais après, lorsque, en 1517, les Ottomans prennent le Caire, ils vont prendre aussi en main le commerce du café, et c'est un deuxième axe de progression là qui va se mettre en place, en partant du Caire, Alep, Damas et Constantinople.
Et de là, il va arriver alors en Europe, où il a un succès considérable, au point d'ailleurs d'être consommé abusivement par un célèbre écrivain du XIXe siècle, qui en faisait une consommation immodérée pour travailler la nuit, Honoré de Balzac.
Quelle heure est-il ?
Minuit, monsieur.
Alors à la bataille. Apporte-moi mes munitions.
Vos munitions ?
Oui, enfin du café, brûlant et très fort. Extraordinaire, votre maca, encore plus moelleux que la dernière fois. C'est le petit Jésus en culotte de mousse. Bon, tant pis, c'est une folie. Deux grands sacs de votre enfant Jésus.
Monsieur est décidément un fin connaisseur. Si je vous le mélangeais avec un tiers de mon Martinique, il vient juste d'être torréfié.
Ah, surtout pas, malheureux, non, les mélanges, c'est moi seul qui les fais.
Thank you.
Et c'est la cantate du café dont j'ai appris par vous qu'elle avait inspiré Bach, comme elle inspirait aussi Balzac, on l'a entendu, c'est Bach, hein. Ouais. Ce café qui est arrivé en Europe de deux manières. Il est arrivé d'abord par Venise, dites-vous, Philippe Goivers.
C'est ça. À partir de Constantinople, il va progresser vers l'Europe par deux voies. Une voie terrestre, hein, par Budapest, Vienne, et une voie maritime par Venise et Marseille. Et la première cargaison de café, elle est signalée à Venise en 1624, assez tôt. Hein, mais parce que Venise, depuis le XIe siècle, avait des relations privilégiées avec Constantinople, avait ses entrepôts à Constantinople, hein, sur la Corne d'Or. Et donc, ils ont vu arriver le café, ils ont vu s'installer le café, et les voyageurs ont commencé à emporter le café dans leurs bagages. Et c'est arrivé à Venise, qui connaissait, par Prosper Alpin, hein, dont on parlait au début, qui connaissait déjà un petit peu l'existence du café. Et là, il va se trouver le café avec une opposition de la part des prêtres qui vont demander au pape l'interdiction du café parce que le café, c'est la boisson des infidèles, bien et évidemment.
Oui. Les noirs, c'est horrible, c'est le diable.
les musulmans ont interdit le vin parce que c'était symbole du sang, du Christ, etc. Mmh. Mais à la place, Satan leur a donné le café. Et donc, un groupe de prêtres a demandé à Clément VIII l'interdiction du café pour la chrétienté.
Mais il aimait beaucoup le café, Clément.
Voilà, il a goûté le café.
Heureusement
dit,
pour nous.
Ce serait dommage de laisser le privilège de cette boisson aux musulmans. Nous allons embêter Satan en bénissant le café et en faisant une boisson vraiment chrétienne.
Alors, il arrive donc par la mer, Venise, Marseille. On va même le retrouver à Versailles grâce à l'ambassadeur du sultan de Constantinople. Et puis, on le retrouve aussi, ça c'est grâce ou à cause des armées ottomanes, on le retrouve aussi à Vienne, hein, le siège de Vienne en 1683. C'est l'occasion pour les Viennois de découvrir le café, Philippe Goivers.
Oui, il y avait déjà une première délégation quelques années auparavant hein, qui était venue à Vienne avec 300 personnes. C'était une délégation immense. Et là, les gens de Vienne avaient commencé à connaître un petit peu le café. Mais c'est effectivement quand il y a en 1683 le siège de Vienne qu'ils vont vraiment découvrir le café parce que quand les armées ottomanes vont s'enfuir des murs de Vienne, ils vont laisser derrière eux tout un butin qui va être récupéré par les armées alliées, par les gens de Vienne, et notamment des sacs, 500 sacs de... Les gens croyaient que c'était soit de la nourriture pour les chameaux. Ils ont commencé à le brûler. Et Kolchinski, qui avait vécu à Constantinople, a senti l'odeur du café brûlé. Encore une fois, on retrouve la même histoire. L'odeur du café brûlé, il a dit non, arrêtez, laissez, faites-moi cadeau de cette cargaison de café. Et il voulait évidemment avoir la cargaison de café pour ouvrir un premier débit de café. Cela dit, ça lui a été refusé. C'est pas lui qui ouvrira le premier débit de café. Il ouvrira plus tard une boutique à l'enseigne de la bouteille bleue quelques années plus tard.
En tout cas, un café qui vient toujours du Yémen, qui en a toujours gardé le monopole, jusqu'à ce que les Européens décident d'en implanter dans leur colonie d'Amérique pour le meilleur et pour le pire, pour le plaisir des consommateurs européens, mais pour le malheur aussi de ceux grâce auxquels ils allaient produire du café dans leur colonie.
Il faut faire pousser du café. J'ai demandé au capitaine de rapporter quelques plants. Il faudra aussi faire venir des esclaves pour cultiver en grand.
J'ai trouvé la marchandise sur la côte africaine, c'est plus facile. La livraison aura lieu dans la crique.
Dis-moi de quoi vous traitez avec le capitaine.
Il va me livrer des femmes et de la main-d'œuvre. Il me fournira en café également. Je fais ce que vous n'avez jamais eu l'audace de faire. À l'avenir, il vous faudra passer par moi pour tout commerce d'armes et d'esclaves.
Et c'était un extrait du téléfilm de France 3, Les Mariés de l'île Bourbon, autrement dit La Réunion, où la France a donc planté des caféiers à partir du XVIIIe siècle dans leur colonie. Mais alors, les Français n'étaient pas les seuls, les premiers à le faire, en volant d'ailleurs des plants aux Yéménites, parce que les Yéménites faisaient bien attention à ce qu'ils ne s'en aillent pas. Eh bien, c'était les Hollandais, Philippe Goivers.
C'était les Hollandais, oui. 1690, hein, c'est vraiment un tournant dans l'histoire du café, parce que les Hollandais vont voler une douzaine de plants de café qui vont aller planter à l'île de Batavia. Hein, c'est vraiment le point de départ de l'expansion
néerlandaise, l'Indonésie d'aujourd'hui.
Absolument. Et quelques années plus tard, les Français vont pouvoir le planter à l'île Bourbon. Et curieusement, c'est le roi du Yémen qui va offrir à Louis XIV quelques plants de café. Alors, est-ce que c'est pour se venger des Hollandais qui l'avaient volé? Mais c'est un don qui a été fait au roi. C'est curieux. Et donc, voilà, c'est un bateau français va le porter en 1715 à l'île Bourbon. Et là, il va très, très vite proliférer. En quelques années, il va suffire à la consommation française.
Hein. Tout le monde vole tout le monde, d'ailleurs, parce que vous rappelez que si la France a implanté du café en Guyane, c'est en volant des plants qui se trouvaient en Guyane hollandaise, c'est-à-dire au Suriname. Et que d'ailleurs, à partir de la Guyane française, c'est là que, également à l'occasion d'un vol de plants, eh bien, les Portugais ont implanté du café dans le plus gros pays producteur du monde aujourd'hui, qui est le Brésil, Philippe Covert.
Oui, absolument. Là, c'est une façon romantique de voler du café, parce que le Portugais a séduit la femme du gouverneur, c'était strictement interdit
français,
du gouverneur, et parce qu'il avait demandé des plants de café, ça lui a été refusé. Il a séduit la femme du gouverneur, et il lui a offert des fleurs et a caché quelques branches de café dans le bouquet de fleurs.
Alors tout ça, c'est très romantique. Ce qui l'est moins, c'est que pour pouvoir cultiver ces immenses plantations de café, eh bien, on a recours à des esclaves. Vous vous rappelez cette très belle phrase de Bernardin Saint-Pierre, il revenait d'Amérique, et évoquant à la fois le café et les plantations de sucre, il disait « Ce qui sert à nos plaisirs est mouillé de nos larmes », et il ajoutait « Je ne sais pas si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l'Europe, mais je sais que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde. On a dépeuplé l'Amérique afin d'avoir une terre pour les planter, on a dépeuplé l'Afrique afin de les cultiver. » Le café, c'est évidemment le versant le plus sinistre de cette histoire du café.
Voilà, c'est ça. On disait que...
L'esclavage.
Au début, on sacrifiait du café pour les hommes. Maintenant, on sacrifie des hommes pour le café. Hein, c'est des millions... Au Brésil, c'est 3 millions d'Africains qui vont être déplacés pour le café. Hein, 5 millions pour la canne à sucre, 3 millions pour le café. Et c'est des centaines c'est le commerce triangulaire, un terrible commerce triangulaire qui se met en place entre l'Europe, les pays les ports africains et les ports américains.
Alors un café qui est aujourd'hui cultivé non plus dans le seul Yémen, qui est un tout petit pays producteur, je crois maintenant, mais dans 76 pays, vous le rappelez, dont des pays d'Afrique, car après avoir été implanté au Yémen, puis en Indonésie, puis en Amérique, eh bien, il est revenu dans son pays d'origine, en Afrique de l'Ouest, ou au Kenya, où au début du XXe siècle, Karen Blixen avait tenté de cultiver du café.
Au lieu de faire de l'élevage, nous ferons du café.
Et nous ignorons tout du café.
On le plante et ça pousse.
Nous avions opté pour une laiterie et ma mère
Votre
a mis son
mère
argent...
Votre mère se fiche totalement que ce soit des vaches ou du café tant que cela paye.
Nous en planterons sur combien?
Sur 400 hectares d'après le baron.
Et cela prendra combien de temps?
Ça dépend de Kinanjui. C'est le chef des Kikuyu.
Et notre première récolte sera pour quand?
Ben là, c'est des jeunes pousses. Pas avant 3, peut-être même 4 ans, facile.
4 ans?
Et si ça prend encore? On n'a jamais fait du café à cette altitude.
Vous me planterez 500 hectares.
Et oui, le café revient au Kenya, au Kenya, en Afrique en général,
en Afrique, oui.
au XXe siècle.
Un point important, c'est qu'au XIXe siècle, on découvre une eau dans l'Afrique de l'Ouest. On va découvrir le Robusta. Hein. On a découvert l'Arabica dans l'Afrique de l'Est. On va découvrir le Robusta dans l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et donc, le XIXe siècle, ça va être... le café va s'étendre dans tous les pays de la ceinture tropicale.
Le Robusta, effectivement, qui est plutôt un café de plaine, vous donnez des chiffres, hein, qui est cultivé entre 300 et 1000 mètres, donc on peut le cultiver en Afrique de l'Ouest, mais c'est un café, dites-vous aussi, de moins bonne qualité. Au total, il y a 60 d'ailleurs espèces de café produits dans 76 pays, dans des conditions d'ailleurs toujours aussi difficiles. Il faut le cueillir à la main, dites-vous, Philippe Goivertz.
Voilà, il faut le cueillir, le bon café d'altitude, il faut le cueillir grain par grain, parce que le mûrissement s'étale sur plusieurs mois. Donc on va repasser pendant 3 mois, les paysans vont repasser pour chercher les grains les plus mûrs, hein, les cerises rouges. Donc ça fait que c'est un, ça donne du travail à une grande population qui est évidemment honteusement exploitée, mais ça donne du travail. Je dis ça parce que il y a actuellement des recherches qui sont faites en manipulation génétique pour faire en sorte que le café se mûrissent en même temps. C'est-à-dire que ça va être un drame pour les populations qui vivent dans la cueillette du café, parce que maintenant, si vraiment c'est mis au point, il n'y aura plus qu'une seule cueillette, qu'un seul passage.
Il y a tellement d'espèces de café et de manipulations, dites-vous, que finalement, on ne boit jamais le même café. Par exemple, une fois qu'on a cueilli les cerises, c'est-à-dire les grains les plus rouges du café, eh bien, il y a deux voies. Il y a ce qu'on appelle, ce que vous appelez la voie sèche, la voie humide, pour le préparer. La voie humide étant celle qui donne les cafés de meilleure qualité.
C'est ça, oui. La voie humide, c'est-à-dire que les cerises de café sont versées dans un bac, ensuite passent dans une dépulpeuse où on sépare la coque des grains, et les grains, après, sont mis à sécher sur des aires de séchage en plein air. Alors que la voie sèche, la cerise, une fois cueillie, est mise à sécher sur les aires de séchage. Hein, donc ça fait un café un petit peu plus amer, avec un petit peu moins de goût. Les cafés de qualité, c'est vraiment les cafés lavés.
Qu'est-ce que les pays qui consomment du café mais qui n'en produisent pas, qu'est-ce qu'ils importent ? À partir de quel stade le café part-il des pays où il est produit ?
Il n'est pas torréfié dans les pays producteurs. Hein. Il part en café vert. La torréfaction va se faire dans les pays consommateurs.
Mais alors cette consommation est une consommation qui a, depuis sa découverte, enfin depuis son apparition autour du 15e siècle, même si on en parle dès le 12e, dites-vous, c'est une consommation absolument considérable, très différente d'ailleurs selon les pays, Philippe Goivaerts.
Oui, c'est le deuxième produit dans les échanges internationaux, hein, c'est dire le volume que ça représente d'échanges et de valeurs, hein, parce que c'est sur les bourses que ça se négocie.
C'est le deuxième commerce, dites-vous, après celui du pétrole.
Après celui du pétrole, oui. Ouais. C'est dire l'importance que ça représente pour les pays producteurs. Hein. Mais pour les pays producteurs, si je peux me permettre de dire un chiffre qui va démontrer quelle est la place du pays producteur par rapport au pays consommateur, entre les années 90 et les années 2000. En 1990, là, ce sont des chiffres de l'Organisation internationale du café, qu'on trouve sur leur site. Dans les années 90, la valeur de vente au détail des cafés était de l'ordre de 30 milliards de dollars. Et les pays producteurs en recevaient 10 à 12 milliards de dollars. Donc sur 30 milliards, 10 en revenaient aux pays producteurs. Oui. En 2002, après la chute, après la crise du café, en 2002, la vente du café au détail est de l'ordre, dépasse même les 70 milliards de dollars. Alors que pour les pays producteurs, ils ne reçoivent que 5,5 milliards de dollars.
C'est incroyable, il n'y a plus d'esclavage, mais il y a encore une exploitation peut-être éhontée.
Où partent ces milliards de dollars ?
Dans le commerce.
Voilà.
D'où l'intérêt ou d'où l'importance du commerce équitable, Philippe Goivaerts.
Oui, absolument. Un film qu'on avait réalisé en 1995 au Guatemala, on montrait le développement d'une coopérative indienne dans le nord du pays par rapport au travail qui se faisait dans les grandes plantations. Et on voyait qu'effectivement, grâce au commerce équitable, au travail de Max Havelaar, le développement économique et social de la coopérative pouvait se développer. Alors Max Havelaar, le commerce équitable, maintenant, il faut voir un petit peu ce que ça devient, parce qu'il y a des grandes enseignes maintenant qui profitent de l'image. Il y a une dizaine d'années, c'est vrai qu'on a pu constater que ça avait un impact auprès des coopératives.
Alors que nous profitons toujours du café et puis de la lecture aussi de ce livre dont je recommande la lecture, Philippe Goivaerts, parce qu'il est magnifiquement également illustré par Emmanuel Sainte-Fargarneau, Les routes du café, qui est un livre qui est publié aux éditions Aubanel. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms suivants, Les mariés de l'île Bourbon de Eutchan Palsy, diffusé en 2007 sur France 3, Balzac de José Dayan, édité en DVD par TF1 Vidéo, ainsi que du film Out of Africa de Sidney Pollack, disponible en DVD chez Universal. Les reportages sont issus des émissions de Bouche à oreille de René Le Caïm-Bollinger, diffusée sur France Culture en novembre 1998, et de Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, diffusée sur Inter en septembre 2001. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Rémi Quincé et Céline Bonhomme. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une impératrice, Élisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi.